Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jason Pédagogie Numérique. Aujourd'hui, on va parler de l'apprentissage numérique avec Emmanuel Martin-Jean que j'ai rencontré en ligne à travers ses recherches et ses interventions qui traitent du sujet de la pédagogie inclusive et de l'éducation neuroatypique. Emmanuel Martin-Jean est engagé au sein des luttes visant la justice, l'équité sociale et le soutien des personnes marginalisées vivant les effets des injustices épistémiques dans notre société et dans notre système éducatif. L'idée de cet échange est de saisir le sens et la place de la pédagogie inclusive dans le réseau de l'enseignement supérieur, mais aussi de comprendre comment le numérique peut être un levier pour intégrer l'apprentissage inclusif dans nos pratiques pédagogiques. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute. Mais bonjour Emmanuel, je suis vraiment ravie, mais vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui.
Oui, je suis vraiment très contente d'être ici aujourd'hui.
Je t'ai rencontré, c'est par les joies des réseaux sociaux. Tu sais, il y a du bon dans les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on casse beaucoup de sucre ces temps-ci parce qu'on sort un peu mal avec les réseaux sociaux. En fait, je t'ai découvert par ton profil LinkedIn. Et puis, il s'avère qu'un de mes collègues aussi me parlait de toi, mais je n'avais pas encore fait le lien. Donc, je suis vraiment enchantée. Parle-nous de toi. Dis-nous, mais comment t'en es arrivé? Pourquoi on parle de toi aujourd'hui? Il me semble qu'on va parler de pédagogie inclusive. Mais pourquoi t'avoir choisi toi?
D'abord, un petit truc sur les réseaux sociaux. J'ai une relation, bien sûr, amoureuse avec ces éléments-là parce que y a toujours le côté paraître, apparence, puis une culture un peu monolithique à la base, même si dans l'application, on est toutes sortes de personnes à l'intérieur de ça. Il y a quand même un guide qui est imposé, mais j'ai trouvé sur LinkedIn un réseau de personnes professionnelles, puis de gestionnaires, puis de praticiens, praticiennes. Et j'ai une approche très intentionnelle de faire une petite curation des gens qui sont justement actifs, mais à l'avant-plan de certains éléments qui me sont chers, justement l'intersectionnalité, l'inclusion, tout ça. Puis je suivais ton profil depuis un certain moment aussi. Et dans le fond, c'est ça, moi, je vais utiliser ça pour faire des cold calls, puis d'envoyer des messages, puis je suis très one-on-one, fait que j'essaie d'avoir des approches vraiment à une personne, puis je vais cibler un profil, puis je vais discuter avec cette personne-là, voir s'il y a des affinités, fait que ça fait qu'il y a tout un beau mouvement qui se crée, puis je pense qu'il y a une partie de ce mouvement-là qui vient aussi expliquer que mon profil apparaît, donc, parce que dans le fond, vu qu'il y a quand même une certaine activité de ma part, surtout au niveau de connecter d'humain à humain, je pense que justement, ce côté-là organique vient transparaître. Mais sinon, d'un côté un peu plus traditionnel, si on veut, un côté un peu plus proche du CV, ben dans le fond, c'est que j'ai eu un parcours assez intensif entre 2014 et aujourd'hui. En 2014, je terminais ma maîtrise en cinéma et j'entreprenais un DESS en pédagogie au postsecondaire avec Performa. J'étais à cette époque-là agent de soutien, puis mon but était de devenir prof au cégep. Et dans le fond, c'est toutes les barrières que j'ai rencontrées dans mon désir de devenir prof. Puis là, on parle de barrières institutionnelles, oui, mais on parle aussi de barrières aussi simples que la précarité d'une personne chargée de cours quand on commence. Et donc, ce qui a fait que j'ai grappillé des petits contrats ici à gauche, à droite. Et en 2018, dans le fond, j'ai eu mes premières charges de cours au collégial, en plus d'une charge de projet en pédagogie inclusive auprès de la CPQ, donc l'Association des collèges privés du Québec. Oui. Donc, j'accompagnais 14 collèges privés subventionnés dans l'intégration de mesures inclusives et c'était un projet de mutualisation qu'ils avaient. C'était très, très, très pertinent puis intéressant. C'était juste difficile à coordonner 14 cégeps, puis surtout sur des éléments qui parle vraiment de la culture puis de la mission des collèges. Comment on applique ça, une vision, comment on applique ça concrètement, une vision, surtout quand on parle d'inclusion, on va souvent opposer ça au côté monétaire ou au côté opérationnel. Donc, on aimerait bien ça, mais ça prend trop de temps ou encore, on a déjà un mode de gestion très directif, donc ce qui fait qu'il y a un peu moins de liberté pour faire des expérimentations. Ça a été très intéressant en termes de processus de voir différents collèges réagir différemment aux mêmes enjeux que sont justement l'inclusion, la diversité ou la démultiplication des personnes avec des diagnostics, donc de
Oui.
la population qui est appelée ESH, étudiants, étudiantes en situation de handicap. À travers ce projet-là, je voyais bien qu'il y avait certains défis inhérents juste à la formule de comment fonctionnait. Donc, moi, j'avais 2 jours semaine pour accompagner ces 14 collèges-là. Donc, c'est sûr qu'en termes d'action concrète dans chacun de ces collèges-là,
Oui.
c'est difficile. Et donc, quand le projet est arrivé vers la fin, ou quand la CPQ a décidé de ne pas reconduire ce projet-là, ben, dans le fond, j'ai eu une opportunité pour être directeur des études d'un collège privé non subventionné. Mon profil un peu atypique, qui venait d'études cinématographiques, puis les questions d'intermédialité vers l'éducation, vers la gestion, avec un fort focus inclusion, puis intégration, puis accessibilité. Ça a été des moments d'apprentissage pour moi qui ont vraiment été riches parce que ça m'a permis de voir tellement de facettes du niveau collégial. Donc, j'ai été employé de
Oui.
soutien, j'ai été professionnel, j'ai été chargé de cours, j'ai été gestionnaire, j'ai vu le privé, le public, le privé non subventionné, puis le subventionné. Il y a vraiment un tour d'horizon qui est rare chez les personnes habituellement. Soit on est
Effectivement.
au public ou au public privé subventionné, il y a quand même certaines spécificités, mais c'est 2 niveaux qui se ressemblent. Puis ensuite, il y a le privé non subventionné qui est une bibite un peu à part. Mais donc, c'est ça, j'ai développé toutes sortes de compétences. J'ai eu toutes sortes d'expériences aussi au niveau des processus d'assurance qualité, au niveau de la gestion inclusive. Et ben là, aujourd'hui, dans le fond, pour me réaligner sur mes valeurs à moi, justement, que sont l'inclusion puis l'accessibilité, j'ai démarré mon entreprise en 2021 et j'ai débuté un doctorat également à l'UQTR dans le doctorat réseau du réseau des UQ. Et donc, c'était ça. Mon but était d'une part de développer une méthodologie scientifique éprouvée en parallèle d'appliquer cet élément-là
Mais
au
cette
quotidien.
méthodologie, dans cette continuité de trouver en fait comme une sorte de fiche actionnable ou de travailler sur le déploiement des politiques d'inclusivité dans les établissements en fait scolaires, est-ce que c'est basé sur ça le sujet de ton doctorat?
C'est sur l'inclusion, l'accessibilité et la gestion.
Oui, d'accord.
Justement, moi, j'ai un regard de biais souvent sur les choses. Puis ça, c'est mon côté que j'appelle, moi, neuroatypique. Et donc, c'est ça, quand je regarde quelque chose, souvent, je comprends pas les mêmes choses que les gens comprennent d'emblée ou
Oui.
j'ai besoin de questionner les choses. Donc, j'arrive toujours avec ce regard de biais-là. Et ce que je remarque, c'est que on cherche à se fonder sur des bonnes pratiques et sur des données probantes. Par
Oui.
contre, on oublie l'étape de s'adapter à notre réalité.
Oui, c'est
Et donc,
ça.
on prend des modèles un peu arbitraires ou un peu abstraits, puis on va les plaquer sur notre réalité, ce qui va amener des problématiques. Puis ce que je remarquais également, c'est que toute la question de gestion du changement est souvent un peu oublié ou minimisé dans ces éléments-là, parce que c'est une gestion du changement constante, et donc il y a toute une gestion humaine à faire de ces éléments-là
Ouais.
qui est difficile. Fait que moi, mon but à travers ma recherche, c'est vraiment de développer ce processus de gestion du changement-là de manière inclusive pour bien servir les personnes qui travaillent
Bien sûr.
d'abord, pour qu'elles soient à même d'être capacitées pour faire leur projet, mais qu'en définitive, les personnes apprenantes, elles, reçoivent le bienfait puis les bénéfices de cette gestion-là, parce qu'on oublie l'impact de l'administratif sur le
Ouais.
pédagogique.
Mais pour bien, tu sais, pour bien comprendre, parce que c'est vrai qu'il y a des termes qu'on va utiliser en fait lors de notre discussion, notre échange, qui sont des termes, je pense, qui nécessitent aussi, parce qu'ils ne sont pas clairs pour tout le monde, qui nécessitent comme une micro, une mini définition. Mais c'est sûr que là, les termes qui reviennent le plus souvent, c'est l'inclusivité. On parle beaucoup de DI, d'équité, diversité, inclusivité. Tu as parlé d'intersectionnalité tout à l'heure. Donc, il y a certains termes sur lesquels on va revenir pour être sûr que nos auditeurs comprennent tout bien.
Absolument.
Mais j'aimerais revenir
avant à cette partie de ce terme d'inclusivité. Il y a deux manières dont j'aimerais aborder ce sujet. Premièrement, plutôt par rapport à toi, c'est sûr que le sujet de l'inclusivité, pour moi, c'est quelque chose qui, quand même, dans ma vie professionnelle qui a à peu près 25 ans, est assez nouvelle. C'est comme un phénomène que je ne dis pas nouveau pour ma part, mais un phénomène nouveau dans le milieu du travail et notamment dans le milieu de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Donc, j'aimerais comprendre, ça a été quoi le moment déclencheur où tout d'un coup, pouf, ces termes d'inclusivité, de diversité, d'équité sont arrivés comme quelque chose qu'on doit faire maintenant. Ben, ma première question, c'est qu'est-ce qui s'est passé?
C'est ça, dans le fond, la manière que je l'historicise, on tire une ligne du passé, même si je ne pense pas que c'est une ligne aussi droite dans son
Oui.
application, mais ça remonte quand même aux années 60-70, au moment de la démocratisation de l'éducation supérieure. Donc, à ce moment-là, en ouvrant les établissements d'éducation supérieure, on avait des nouvelles personnes, des personnes qui étaient moins intégrés habituellement, et notamment les personnes avec des situations de handicap ou des limitations fonctionnelles. Et donc, les premiers bureaux qui ont existé, c'était des bureaux d'accessibilité pour permettre aux personnes, soit non-voyantes ou avec des chaises roulantes, ou peu importe un handicap physique. Et donc, le premier élément de l'inclusion a été là. Le deuxième était au niveau monétaire. On cherchait à intégrer des personnes qui étaient issues de différentes classes sociales au sein de l'université. Puis là, plus le temps a avancé, plus les populations, si on veut, se sont diversifiées. Donc là, on a eu les communautés culturelles, on a les communautés issues de la diversité sexuelle et de genre, on a toutes sortes de marqueurs identitaires comme ça. Et culturel aussi. Donc, chacun a sa propre culture. Moi, je suis une personne non-binaire, je suis une personne neuroatypique. Ben, ces deux identités-là ont une culture chacun. Et l'intersection de ces deux identités-là ont une troisième culture aussi, ou une culture qui est un peu mélangée. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'on parle vraiment de la diversité et des diversités. C'est des manières de. C'est des postures épistémologiques, donc des rapports au
Oui.
savoir qui sont différents. C'est des rapports à l'autorité qui sont différents. C'est des rapports au travail qui sont différents. Donc, moi, j'ai une approche à l'effort qui est différente de d'autres personnes. Et toutes
Oui.
ces modalités-là, pour moi, c'est ça que j'appelle des diversités d'apprenants.
Et
Et
qui
donc,
change aussi de
on.
manière générationnelle ce rapport au travail, à l'effort.
Exactement. Il y a
Oui.
des
Donc la
fluctuations, c'est ça.
société évolue aussi.
C'est ça, exactement. Puis c'est que on peut pas créer des blocs monolithiques de ces éléments-là. Puis ça serait une erreur. C'est un mode de pensée souvent qui arrive vite. On cherche à mettre les choses dans des boîtes pour les comprendre, puis pour les régler, puis faire la checklist. Quand on parle d'être humain, c'est un problème qui est irréglable. On peut pas régler le problème humain. On est des humains, on apprend à vivre au fur et à mesure qu'on le fait et qu'on expérimente la vie. Ben là, dans le fond, c'est des postures. Est-ce qu'on cherche à inclure ces gens-là? Est-ce qu'on cherche à leur organiser des difficultés? Ou encore, est-ce qu'on cherche à les faire réussir? Et donc, la mission des établissements d'éducation supérieure est d'amener les étudiants à réussir. Et un des modèles qui a été beaucoup appliqué, c'est la réussite scolaire. Donc, on cherche à ce que les gens obtiennent leur diplôme. Et pour moi, donc, c'est un peu ça. Comment on fait pour maximiser l'obtention du diplôme de toutes ces
Oui.
personnes-là? Et c'est là que l'inclusion, l'accessibilité sont pour moi les modèles à prendre, parce que plutôt que de se dire l'excellence, alors que cette excellence-là, elle est située dans une culture, puis dans un mode de pensée justement un peu plus monolithique. Ben, de revenir à l'individu. Donc, quelles sont les forces et les faiblesses de cet individu-là? De quelle manière on peut enlever des barrières qui sont arbitraires? Et de quelle manière on gère les barrières qui sont d'apprentissage? Parce que si on veut être dans une zone proximale d'apprentissage, il faut qu'il y ait des difficultés, mais on veut gérer ces difficultés-là pour que l'étudiant ne soit pas écrasé sous elle, ou au contraire, qu'il ne soit pas du tout stimulé.
Tu sais, dans ce que tu dis, effectivement, bon, déjà, je me dis, waouh, c'est à peu près des années 70 où ça a commencé, ça a dû commencer. En tout cas, moi, j'ai entendu beaucoup parler des questions de l'inclusivité à partir de 2017, mais vraiment, des établissements qui se disent, mais on est en train de se poser la question, au même titre que des enjeux, tu sais, par exemple, de pollution, par exemple, ça vient, c'est des sujets qui vont comme, tu sais, ensemble, ce travail de prise de conscience avec une application directe d'aller chercher, en fait, c'est comme de faire appel, par exemple, à un organisme, une boîte comme la tienne, pour aider à accompagner. Il y a beaucoup plus que ça, parce que tu parlais de déployer en fait la vision. Mais ça implique que chaque individu, tel qu'on est, on doit être sensibilisé à ça. C'est-à-dire que quand on parle d'inclusion dans le milieu de l'éducation, c'est sûr que comment on va adapter aussi les programmes et on va pas, on va inclure aussi les personnes et l'histoire de ces personnes dans ces programmes, ça peut être une forme d'inclusion, comme la manière dont on va les recruter dans l'établissement, enfin, même de manière, physique, les déplacements, il y a tellement de choses. Et il y a aussi les individus, les praticiens, les membres du réseau qui doivent en fait entrer dans ce processus de déploiement en fait de cette vision absolument inclusive. Ben oui, mais ça fait ça du boulot.
Exactement.
Ça fait beaucoup de travail.
Et puis tu tiens le point central. Ça prend du travail. Et pour faire du travail, ça prend du temps. Et on n'est pas dans une organisation sociale qui nous laisse le temps. Et c'est là que c'est difficile. Et c'est là qu'il y a une résistance personnelle à avoir. Donc, de ne pas rentrer dans le mode plus continu, soutenu de modification et de transition. Parce que le travail est complexe et il touche de manière transversale les éléments institutionnels et humains. Et ces éléments-là doivent être travaillés de concert, mais pas nécessairement tout en même temps. Donc, on ne cherche pas à faire un chaos complet. Mais ça prend un plan. Ça prend une communication contenue, ça prend une personne qui est redevable de ces éléments-là et qui a aussi l'autorité. Parce que ce qu'on remarque dans les recherches, c'est que si on n'a pas un gestionnaire haut placé qui a la légitimité et l'autorité pour mener le projet, on a bien beau avoir autant de bonne volonté qui vient des profs puis des étudiants, ça va être limité. Mm-hmm. Et donc, il y a vraiment toute une perspective à déconstruire avant tout ça. Et c'est là, dans le fond, que, puis j'aimerais ça qu'on aille justement vers le côté technopédagogique de tout ça.
Oui.
Puis l'organisation, je perçois une organisation qui est clairement impactée par la production mercantile et le capitalisme. En ce sens que on cherche à rendre tout efficace et efficient rapidement. La gestion sur les résultats, c'est un peu ça aussi. Donc, on cherche vraiment à toujours réduire les coûts et à maximiser les éléments de sortie qui sont dans ce cas-ci des diplômes. Par contre, en focusant sur le résultat seulement, c'est que ça nous laisse pas d'espace pour faire des tests puis pour justement transiter vers un nouvel état. Donc, dans ce moment-là de transition, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être soutenu, on a besoin de se rappeler quel est le but. Et donc, si on n'a pas des ressources psychologiques pour permettre aux employés ou qu'ils soient gestionnaires ou pas, de gérer le côté émotionnel qui est dû avec le changement, parce que le changement, c'est très vulnérabilisant. Puis on sort de notre zone de confort. Donc, on a besoin d'accompagner les gens pour sortir de cette zone de confort-là. On ne peut pas s'attendre à ce que la chose se fasse en elle-même. Puis justement, le modèle autoritaire est très comme ça. Et c'est là qu'il y a un intérêt avec les technologies et un enjeu à s'assurer. Parce qu'on ne veut pas amener une technologie pour accélérer les processus qui vont déjà trop vite présentement. Donc, c'est un peu
ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. On est d'accord, tu sais, que justement, quand on est dans l'intégration, en fait, d'un système de gestion des données pour détecter tout de suite si un étudiant est en situation d'échec ou de décrochage scolaire, c'est sûr que nous, enfin, dans les systèmes, on veut cibler le décrochage scolaire pour mieux aider, mais du coup, on part sur une solution qui va être une solution algorithmique qui va effacer complètement.
Exactement. Puis c'est là aussi que toute la question de la posture, elle est importante, parce que si on a une posture comptable de vouloir maximiser les revenus, par exemple, ou de maximiser les diplômes, puis qu'on ne regarde pas les impacts de ce qu'on fait sur les individus eux-mêmes, qu'on regarde seulement, bon, ben là, on a 60% de gens qui ont des diplômes. Mais ça occulte tout le côté humain parce qu'on peut être en situation de difficulté et réussir. Et donc, si on n'a pas ce regard-là critique sur la structure et comment elle fonctionne, ben, on va reconduire ces iniquités-là. Puis justement, il y a une recherche que je veux donner en exemple par rapport à ça. Justement, je parlais tout à l'heure des identités issues des communautés culturelles ou encore ayant des limitations fonctionnelles. Donc, il y a la chercheure Corina Borianadon qui a fait une recherche qui démontre que, dans le fond, il y a une certaine essentialisation qui s'opère. Si la personne vient d'un milieu culturel, ben, ça va orienter et teinter toute la lecture de cette personne-là. On va l'enfermer dans son identité culturelle et tous ses défis vont être reliés
À cette
à
identité.
cet élément-là. Et l'équivalent se passe aussi pour les personnes qui ont un diagnostic. On va essentialiser la personne à son diagnostic et on va dire, tu as besoin de ça parce que les gens qui ont ton diagnostic. Donc, encore une fois, c'est toujours la question, on cherche à faire vite, on prend une solution qui semble bonne et on enlève toutes les aspérités, puis on la plaque sur. Alors que ben, ce qu'on a besoin, c'est pas de plus de contrôle. Ce qu'on a besoin, c'est de plus de compréhension puis de soutien. Parce que moi, je suis justement présentement dans mon expérience de personne étudiante au doctorat. Je suis entrepreneur, donc mon salaire puis mes charges passent à travers mon travail d'entrepreneuriat. Par contre, quand j'arrive au niveau institutionnel, j'ai le choix entre être à tremplin, avoir accès aux charges aux assistanats, puis aux projets, puis aux bourses également. Ou soit je m'en vais temps partiel, mais là, je perds plusieurs de ces éléments-là. Donc là, déjà, administrativement, j'ai un choix à faire en tête à temps plein ou à temps partiel qui a un impact non neutre sur ma pédagogie.
Effectivement.
Ensuite de ça, de quelle manière je suis accompagné à travers ça? Et c'est là où on a vraiment un changement de paradigme à opérer au niveau de notre perception, plutôt que de chercher à contrôler.
Mais est-ce qu'il n'est pas, tu sais, je me fais un peu l'avocat du diable, j'essaie de voir les choses dans tous les sens, mais tu sais, tu parles de ton parcours effectivement de doctorant, d'étudiant doctorant. Est-ce qu'il n'est pas légitime cette volonté de créer une structure? Tu sais, j'imagine moi aussi qui évolue
Ben oui.
à l'UQAM, en fait, dans le
Absolument.
cadre, tu sais, d'un projet doctoral. Je me rends compte qu'effectivement, il y a une foule de ressources auxquelles je peux avoir accès, mais qui ne répondaient pas directement à mes besoins. Quand j'envoyais un message, on me disait, bah, écoutez, vous avez tel lien, vous avez telle chose, vous avez telle chose. Il y a des choses qui sont organisées. Il y a effectivement un investissement aussi humain et financier sur ce type
Absolument.
de ressources. Donc, on estime que les étudiants ont tout ce qu'il leur faut. Pour moi, qui suis d'une population immigrante au Québec, qui n'est pas nécessairement dans une situation où j'ai une résidence permanente, en tout cas à l'époque, toutes ces choses-là auxquelles qui ne me correspondaient pas, mais qui m'ont de plus en plus isolée dans ma particularité, et qui fait que il y a un moment où tu dis, OK, est-ce que je me force à utiliser les outils, même si ce ne sont pas les bons, pour leur faire comprendre que je suis à même de me débrouiller dans cet environnement, où je perds aussi un peu ce côté, on parle beaucoup de la santé mentale des étudiants,
Exact.
mais je me perds aussi peut-être dans mon bien-être aussi mental. Et je refais le parallèle aussi par rapport à des populations dans le réseau collégial. Pour des personnes qui ont un trouble de l'attention, on dit OK, il y a tout un parcours pour déjà qu'on évalue et qu'on valide cette évaluation que tu as des troubles de l'apprentissage. Puis à la suite de ça, on te propose quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est du temps en plus. Je posais ma question, mais dans le réseau collégial, tu sais, comment ça se passe cette gestion en fait de ces personnes-là? Parce que le trouble de l'apprentissage, c'est vrai qu'on met dans une case, on explique aux gens ce que c'est, mais est-ce que vous savez pertinemment ou exactement que cet étudiant, il a besoin de temps en plus? Est-ce que le temps en plus, ça répond à sa demande?
C'est tout interrelié justement à la posture. C'est qu'on a une approche où on cherche à assurer nos arrières puis à assurer qu'il y ait un niveau de service. Par contre, l'étude et l'analyse de la qualité et de l'impact de ces services-là, justement, comme on regarde juste le bottom line, ben, on le perd un petit peu ou tout dépendant les types de gestionnaires. Il y a certains gestionnaires qui vont demander plus de reddition de compte, mais souvent, on va être dans une gestion au quotidien. Donc, le moment de retour va tarder à revenir à ton élément du temps supplémentaire. Donc, moi, personnellement, j'aurais besoin de temps supplémentaire pour tout. J'ai besoin de plus de temps parce que ma manière d'interagir avec l'information, elle est en arborescence. Donc moi, quand je lis un texte, je ne suis pas en train de lire un texte puis de prendre les conclusions puis de dire « OK, ça c'est le texte, il me dit ça, puis voici, c'est fini » de manière linéaire. Moi, quand je lis le texte, c'est quelle est la posture de la personne qui a écrit le texte? D'où elle se place? Où elle est située? Dans quelle culture et dans quelle société? De quoi elle est en train de parler? Est-ce que j'ai des éléments de d'autres disciplines qui viennent corroborer ou qui viennent soutenir ces éléments-là? Et donc, quand je lis un texte, je lis 5 textes.
Oui. Ouais, ouais,
et il y a tout ce niveau-là où j'ai un côté où je suis hyper sensible, donc je perçois plus d'informations, mais en même temps, ça a un coût, ce plus d'informations-là. Ça fait que je suis pas mal moins vite que d'autres à traiter les choses parce que je repars un peu de zéro, ou en tout cas, je repars de plus loin parce que je refais le chemin. Je prends pas pour acquis qu'on a fait le chemin pour moi.
Oui, c'est ça.
Mais qu'est-ce qu'on évalue? Est-ce qu'on évalue le nombre de textes que tu as lus? Où on évalue la qualité de ton propos. Puis, de quelle manière ces éléments-là d'évaluation sont utilisés pour soutenir ton apprentissage ou seulement pour te grader dans un système? Parce que là, présentement, bien que l'entièreté du système essaie de transiter vers un mode de compréhension plus basée sur la réussite éducative, donc la réussite holistique humaine de la personne apprenante, ben, le système dans lequel on opère demeure un système très hiérarchisé et très au niveau des apparences puis des notes. Et donc, si on veut accéder à des bourses, ben, on a besoin de notes. Mais si on veut performer, avoir des notes, une personne comme moi, je ne performe pas des A+. Je cherche des choses que je ne connais pas. Oui. Donc, je suis dans un niveau
de... L'approche est complètement différente.
Ben oui, c'est ça.
C'est ça.
Alors que moi, je connais beaucoup de gens qui performent à l'école parce qu'elles ont compris le truc. Tu vas chercher tes notes plus, mais ce qui fait qu'après ça, quand tu arrives sur le terrain, ben, tu as peur parce que tu n'as pas développé les choses que tu n'étais pas à l'aise.
Mm-hmm.
Moi, je suis jamais à l'aise. Je suis jamais confortable.
Ben oui.
Puis ça, c'est un côté, un trauma un peu qui s'est placé, mais je suis un peu trop... toujours dans ma zone proximale d'apprentissage. Fait que là, j'apprends à me replacer puis à opérer des choses dans lesquelles je sais que je suis bonne pour pouvoir justement faire une meilleure qualité de projet. Mais qu'est-ce qu'on évalue? De quelle manière on accompagne ça? Les examens théoriques, on est d'accord que l'information et le savoir est essentiel pour le développement de la compétence. Par contre, évaluer à travers un examen de théorique, une atteinte de compétence, ben ça marche pas.
Ouais.
Et donc c'est là que l'intelligence
artificielle. Qu'est-ce que tu veux dire par là une atteinte de compétence?
Ben, pareil,
évaluer la théorie, évaluer une connaissance. Est-ce que ce serait évaluer une connaissance en fait qui est une connaissance qu'on peut trouver aujourd'hui très facilement en deux clics?
Ben,
est-ce que c'est l'évaluation de la connaissance pure et du savoir ou c'est l'évaluation de l'application de ce savoir?
Exactement.
C'est ça?
Donc, c'est ça. Au collégial, on a l'approche par compétence. Donc, les cégeps, les cours dans les cégeps cherchent à développer une compétence. Et là, on a les devis du ministère qui sont interprétés au niveau d'établissement avec des critères d'évaluation qui sont des verbes d'action qui sont concrets.
Oui.
Dans ces éléments-là, dans les niveaux les plus bas, oui, il y a aller chercher de l'information, mais de quelle manière on cherche à aller à cette information-là? Quand aujourd'hui, moi, dans mes activités professionnelles, si je manque d'information, je vais la chercher.
Mm-hmm.
elle est présente. Et donc, j'ai un rapport un peu plus utilitaire à cette connaissance-là. Par contre, y a divers moments où là, je peux, par curiosité, aller lire autre chose. Mais dans l'approche que je préconiserais au collégial, c'est de placer les étudiants et étudiantes dans des situations où elles ont besoin de mobiliser ces connaissances-là et non pas de tester leur rétention des connaissances. Et on sait que la motivation est un élément essentiel de ça. Donc, il y a un travail à faire, mais le travail, il est là, il est concret. Écouter ces étudiants, apprendre à les connaître, comprendre c'est quoi leur volonté et leur désir, pourquoi ils ont choisi ce programme-là et de quelle manière moi, je peux les aider à cheminer à travers ça pour leur permettre d'atteindre le même niveau d'excellence et de qualité, mais d'une manière qui, plutôt qu'à être imposée d'en haut, donc moi, en tant que professionnel, j'ai établi que X, Y, Z sont des connaissances essentielles pour un professionnel, mais de repartir d'en bas puis de dire, OK, mon étudiant cherche à s'en aller là, comment je peux l'accompagner à travers ses démarches, à travers ses projets, à travers ses défis, parce qu'il va avoir des défis quand même. Mm-hmm. Donc, ouais. Comment je peux l'accompagner à faire face à ces défis-là?
Oui, je comprends. Écoute, ça me rappelle ça me rappelle un étudiant brillant, mais qui effectivement avait une manière de fonctionner et de réagir par rapport à la manière dont il recevait son enseignement. Des fois, il pouvait pas supporter, là, tu sais, c'était physique, on le sentait, tu sais, il pouvait pas supporter le cours magistral où il voyait, en fait, l'enseignant dans une posture de faire du push de connaissances. Et il y a un moment où on avait eu cette discussion en cours où il disait, mais au lieu de nous apporter des connaissances qui pourraient nous aider plus tard à résoudre le problème, et si on utilisait aussi l'éducation pour résoudre les problèmes maintenant? Ça m'avait parlé parce qu'il parlait de, c'est de, on prend un problème, donc c'était un problème géopolitique là, mais on prend un problème, on prend, tu sais, c'est une étude de cas. Et lui, il disait, c'est en travaillant sur le problème que moi, je vais pouvoir aller atteindre en fait des compétences que vous voulez me faire atteindre. Mais tu sais, il utilisait, il me disait, mais si on fake tout le temps les situations, si on les rend toujours comme des situations qui sont probables ou on vous prépare pour un avenir, etc., est-ce qu'on n'est pas à côté de ce qu'on devrait enseigner? Puis écoute, il m'a fait réfléchir toute la nuit là. Tu sais, ça tournait en boucle parce que je me disais, ok, mais comment? C'est super intéressant ce qu'il a dit parce qu'il avait cette maturité en tant qu'étudiant en enseignement supérieur d'avoir ce retour de « on ne peut plus continuer à enseigner comme on enseignait avant parce que le modèle social a changé. On ne nous façonne plus pour rentrer dans une case et répondre à, un poste qui va nous permettre de produire. L'industrialisation, etc. Ouais. Mais quelque chose où on veut être, on veut régler nos problèmes. On veut être des entités qui soient à même de pouvoir réfléchir de manière plus abstraite à comment aller résoudre des problèmes et des problèmes qui ne sont pas résolus depuis. Hein. On parlait de pollution tout à l'heure, etc. Mais ça, j'en viens à cette question justement par rapport à toi et à cette, tu sais, tu t'avais mentionné la technopédagogie, mais le numérique. Ouais. Inclusivité numérique, qu'est-ce qu'on entend par ça à ce moment-là, sachant qu'on a déjà toute cette immensité de, tu sais, je le vois comme vraiment une sorte de toile d'araignée, tu sais, l'inclusivité, en tout cas dans le système de l'éducation, où je vois qu'il y a, tu sais, les individus, il y a les systèmes, mais là, il y a vraiment cette notion, on parlait d'intelligence artificielle, qu'on utilise, et je le dis souvent, j'ai l'air un peu, j'allais dire baba cool, c'est pas baba cool que je veux dire, mais tu sais, quand les gens me parlent d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, j'y suis, j'apprends beaucoup de choses sur ça, j'ai beaucoup plus du fait d'être anthropologue dans ces questions d'éthique, de réflexion sur qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ça. Je ne rejette jamais les outils parce que je suis persuadée que c'est nous, hommes, qui avec la création des outils et des bons outils, va pouvoir peut-être nous aider à résoudre des problèmes, mais on ne va jamais dans le bon sens. Généralement, on parle de l'intelligence artificielle et on entend avec ChatGPT actuellement de « on a vérifié, il se trompe parfois » Mais tu sais, cette
On
sorte
reste
de.
traditionnellement attaché au mode
Oui, au
qu'on
mode
connaît.
de. Bah, tu vois, il se trompe, il n'a pas toute la
Oui, non,
connaissance.
c'est
Ben oui,
ça.
mais en même temps, cette connaissance, c'est nous qui la développons. Mais pourquoi maintenant, au lieu de réaliser que l'intelligence artificielle, c'est un miroir de l'homme, on pointe du doigt l'intelligence artificielle comme l'élément qui va résoudre nos problèmes?
Ouais, puis ça, c'est toujours la figure de la panacée. Donc, c'est quelque chose qui, oui, a un potentiel émancipateur et on capitalise là-dessus d'un point de vue marketing pour dire, il y a un potentiel émancipateur des technologies. Et le but d'utiliser des technologies, c'est justement de soutenir puis de compenser pour la faiblesse, entre guillemets, de notre corps humain dans un univers qui a été pendant des centaines de millions d'années hostile. Donc, on cherche à contrôler. Et c'est toujours là le problème. Tant qu'on cherche à contrôler, à empêcher, c'est une machine sans fond. Parce que tu ne peux jamais contrôler entièrement quoi que ce soit. Il est impossible de contrôler. Tu peux guider, tu peux accompagner, tu peux aider, tu peux soutenir, mais tu ne peux pas contrôler. Parce que quand tu cherches à contrôler, ça va créer de même dans son propre processus la résistance à ta volonté de contrôle. En parallèle de ça aussi, c'est ce qu'on voit justement avec les technologies numériques, plutôt que de chercher à rendre ça plus efficient, justement, puis à réduire on cherche à produire toujours plus, mais c'est là que je disais tout à l'heure qu'on oublie de regarder dans quelle structure culturelle on est. On est dans une structure occidentale capitaliste qui organise les individus selon une hiérarchie qui est imposée de l'extérieur par le système capitaliste dans le but de la création d'argent. Donc, c'est ça à la base. La production scientifique devient inféodée à la création d'argent, tout devient une ressource et l'individu est oublié. Mais le capitalisme n'est pas l'économie et les choses ne sont pas uniquement une chose. Et donc, on est toujours dans une économie humaine qui est fortement influencée et fortement orientée par le capitalisme, mais on n'est pas pris là-dedans. Il y a quand même des échanges qui arrivent, il y a quand même toutes sortes d'autres de formes économiques qui existent. Et c'est là qu'on cherche à revenir, nous, avec l'inclusion, avec justement le modèle d'accessibilité. L'accessibilité numérique, pour nous, c'est là qu'on veut faire rentrer le numérique encore plus dans les salles de classe pour enlever les barrières arbitraires. Un exemple concret, l'épreuve uniforme de français, ben, ça a été démontré que de forcer les gens à l'écrire à la main, alors que plus personne n'écrive à la main, c'est empêcher les gens de pouvoir produire selon leur niveau de compétence. Mais ça, c'est un petit exemple. Maintenant, on pourrait décider de réintégrer l'écriture manuscrite pour l'impact que ça a sur la plasticité neuronale. On pourrait décider de faire des choses comme ça. Mais là, ça prend une réflexion appliquée à la réalité. Et c'est pour ça que c'est bien beau avoir des belles pratiques puis des belles choses si systématiquement on s'engage dans la même voie que tout le monde. Et donc, ChatGPT, on veut l'utiliser pour le côté informationnel. Puis là, on va faire ci, on va faire ça avec. Fait que là, on va résister parce que dans le fond, on ne veut pas que les gens trichent. Oui, mais ça, c'est encore une fois du contrôle. Tu ne pourras jamais contrôler
Toujours
les
du
gens.
contrôle, ouais, c'est
Et
ça.
si tu sors de ce modèle-là capacitiste, donc est-ce que je suis capable aujourd'hui ou non de réaliser ma tâche, et qu'on va dans un modèle d'apprentissage, et là qu'on dit à la personne, voici où tu veux te rendre. Si tu veux te rendre là, tu as telles étapes et efforts à faire. Puis nous, on va t'accompagner pour faire ces efforts-là. Puis on va te donner des rétroactions une fois de temps en temps pour te dire à quel niveau tu te retrouves. Mais ça change complètement la donne. Parce que là, par exemple, les cours de philo où on cherche à développer la pensée critique. On cherche à développer cette pensée critique-là à travers des textes écrits. Donc, on survalorise le côté rédactionnel. Par contre, une personne pourrait tout à fait démontrer l'atteinte de la compétence, développer une pensée critique à travers un argumentaire ou à travers un vidéo ou à travers un jeu vidéo. Un individu ne peut pas porter l'entièreté de l'inclusion d'un système. Et la flexibilité doit être partagée parce que là, présentement, la personne chargée de cours, en plus de développer son matériel, en plus de se développer en tant que pédagogue, doit également se développer en tant que psychologue, doit également se
Oui.
développer en tant que développeur de contenu numérique, doit également se développer en termes d'accessibilité, puis avec les limitations fonctionnelles en éducatrice spécialisée ou en orthophoniste. Donc, à chaque fois, l'individu est responsable de tout ça. Puis
De
là,
tout
après ça,
ça.
on repousse ça au prochain niveau. L'étudiant est responsable d'aller chercher son diagnostic. L'étudiant est responsable d'aller
Ouais.
regarder les vidéos puis les formations. Il en a déjà dresse. C'est déjà difficile à prendre une nouvelle compétence. Est-ce qu'on peut les aider et les accompagner et y aller étape par étape plutôt que de leur dire, tu as tout ça à apprendre?
En fait, tu sais, quand moi, généralement, la parole, je la transforme en image dans ma tête. Je sais pas si, mais en fait, moi, je vois ça comme ça. Je vois ça comme actuellement, en reprenant ton exemple de chargé de cours, on va imposer différents supports en disant à l'étudiant, par exemple, pour ton cours de philosophie et pour justement développer cette compétence de pensée critique, pour faire acte de ce développement, tu vas devoir écrire un texte. Tu vas devoir faire une vidéo. Donc là, on lui propose deux cases, vidéo, texte. Est-ce que ça veut dire qu'en intégrant l'inclusivité ou justement cette pratique pédagogique inclusive, on se dirait, ben, ça, c'est la compétence que tu dois développer, de la pensée critique. Comment penses-tu être à même de proposer quelque chose qui fera la démonstration de cette pensée critique? Parce que la question que je me posais avant, tout à l'heure, et tu sais, j'en reviens à, ouais, mais est-ce que c'est pas légitime de trouver des ressources parce que tu veux aider, mais tu ne peux pas développer? On sait qu'on est aussi dans une société où on manque de personnel et on ne peut pas développer pour chaque individualité. On sait que l'être humain est complexe. Nous sommes des êtres complexes. On ne peut pas adapter une ressources qui seraient, tu sais, qui va épouser la particularité, la complexité d'un individu. Donc, ce serait que l'inclusivité, c'est non, arrêtons de vouloir développer quoi que ce soit, mais allons vers cet individu. Et là, on utilise justement des ressources que tu partages toi lors de tes formations, etc., pour permettre à cet individu de faire ses propres choix selon ce qui lui convient, lui, dans sa complexité d'être humain. Est-ce que c'est ça?
Ben oui, c'est de renverser, c'est parce que présentement, on est dans des modèles réactifs. Donc, quand il y a un problème, on y réagit. Donc, quand un étudiant a un diagnostic, on a le premier domino et on commence à réagir à partir de ce moment-là. Avec l'inclusion, avec la conception universelle des apprentissages, puis avec l'accessibilité universelle, on cherche à déplacer ce focus-là en amont et à dire, voici les types d'apprenants que j'ai chez nous. J'ai des personnes avec des troubles d'apprentissage et des personnes avec. J'ai tel type de profil. Puis encore là, une fois, moi, je cherche à développer des systèmes qui sont flexibles. Donc, ce que je dis là présentement, c'est nécessairement à interpréter localement. Et donc, moi, en tant que prof de philo, par exemple, j'ai deux étudiants avec des diagnostics cognitifs. J'ai un étudiant qui a un diagnostic physique. J'ai l'expression de trois, quatre genres différents. Puis, j'ai cinq, six communautés culturelles. Bon, où est-ce qu'on va avec ça? Qu'est-ce qu'elles ont à m'apprendre, ces personnes-là? Qu'est-ce que je vais à leur apprendre, moi? Qu'est-ce qu'on cherche à développer ensemble? Puis là, chaque individu va avoir son set de forces et de faiblesses. Disons que moi, j'ai un côté plus technopédagogue, puis un côté plus discursif. Ben, ça va orienter le développement de mon cours autour de ces éléments-là. Et en amont, je vais me dire, OK, quel niveau de flexibilité je peux prévoir dans mon évaluation? Par exemple, on m'impose de manière institutionnelle l'écriture d'un texte de 900 mots, parce que dans les compétences en philo, souvent, le dernier élément, c'est ça. Donc, je suis obligé de les amener à être capable d'écrire 900 mots. Ben, moi, si c'est ça, sur ça que je les évalue, je vais les faire écrire à tous les cours.
Ben
Je vais
oui.
toujours les faire écrire parce que c'est comme ça qu'ils vont développer. Et ponctuellement, on va se donner des rétroactions, soit entre pairs, soit entre... Et donc, ça pourrait être une activité 1, 2, 3. Donc, le 1, 2, 3, c'est tu commences avec une question tout seul, ouais. Tu écris ce que tu penses, tu fais avec ton voisin, puis après ça, tu reviens en grand groupe. Mm-hmm. Ça pourrait être un exemple d'activité. Ou encore, en classe inversée, à la maison, ils ont un texte d'une demi-page à écrire à la suite du visionnement d'une vidéo et on fait une plénière en grand groupe par la suite. Mm-hmm. Mais toujours intégrer la rédaction. Puis à chaque... De les aider à bâtir. Donc, si je me dis, ils ont 900 mots à faire à la fin de la session, bien, on peut faire le plan ensemble, on peut faire l'écriture d'un paragraphe ensemble, ou je peux placer des éléments à travers la session pour dire, bon, bien, on a vu 7 textes fondateurs. Dans le projet final, vous allez choisir 2 de ces textes-là. Donc là, tu crées de la flexibilité, tu crées de l'espace pour que les gens puissent s'investir eux-mêmes. Mm-hmm. Donc toi, travaille là-dessus. Puis là, une autre personne, elle est en santé. Bien, l'éthique en santé, c'est des choses qui sont prégnantes. Fait qu'est-ce qu'il y a un sujet? Et donc, de rentrer en dialogue avec ces personnes-là, de leur permettre de se représenter et de se sentir représenté. Et de se sentir en contrôle en partie de leur truc. Puis après ça, ben, toi, en tant que pédagogue, quelles sont tes forces et tes faiblesses? Mettons que dans ce cas-là, la personne n'a pas de formation en création d'évaluation. T'sais, elle fait des évaluations un peu intuitivement depuis qu'elle a commencé à être chargée de cours. Ben, il y a des conseillers pédagogiques. Et donc là, d'aller voir un conseiller pédagogique puis de dire, bon, mais là, j'ai cette volonté-là, je veux évaluer mes élèves de cette manière-là, mais j'ai besoin d'un outil qui pourrait m'aider, ben, de créer une grille d'évaluation critériée avec différents seuils et avec assez de flexibilité à l'interne pour dire, voici comment ça va se passer pour l'examen. Tu donnes ça à ton étudiant. Donc, l'étudiant sait concrètement sur quoi il va être évalué aussi. Mm-hmm. Et donc, lui peut prévoir le temps de travail, il peut prévoir de quelle manière. Il peut dire, ah, ça, c'est un élément que je suis moins fort, mais je suis noté 2 sur 10 là-dessus. Fait que il peut faire des choix stratégiques.
Ça, c'est ce qui est conseillé. Hein,
de plus en plus, oui.
De plus en plus, hein, de
mais
laisser
ça reste
aussi les...
difficile. Oui, effectivement. Parce que ça se fait avec du temps. Moi, quand j'ai donné mon cours, justement, de Humanities, où là, au niveau anglophone, on ne nous demande pas nécessairement d'être philo-philo, mon premier cours était beaucoup plus limité que la troisième itération du cours.
Oui.
Et mes grilles d'évaluation étaient beaucoup plus approfondies.
Elles ont évolué.
La première fois, j'avais seulement mi-session puis fin session qui avaient une bonne grille. Puis mes 2 intermédiaires, j'avais 4 évaluations en tout, mes 2 évaluations intermédiaires, là, étaient un peu plus légères au niveau des critères. Parce que souvent, le critère qu'on va avoir, c'est est-ce que tu as fait ça ou pas?
Mais oui.
Mais est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu l'as bien fait? Est-ce que tu l'as fait? Donc, c'est quoi la qualité de ton fait? Mm-hmm. Et après ça, de fois en fois, avec les rétroactions des étudiants, je vais améliorer mes évaluations. Donc, quand je voyais qu'un étudiant peinait à comprendre une consigne ou un élément, ben c'était de ma faute à moi. C'est ma responsabilité en tant que personne en position de pouvoir de replacer la difficulté au bon endroit pour que le focus soit sur l'apprentissage, sur le développement de nouvelles compétences.
Ça revient à ce que tu dis de toujours être en apprentissage, que tu sois en fait le facilitateur, l'étudiant ou la personne en tout cas qui évolue dans le réseau collégial. On est tous des apprenants. Ben généralement, on parle d'enseignants-apprenants. Mais les enseignants aussi sont des apprenants puisque, tu sais, on le dit toujours, quand tu as ton premier cours, tu vas voir, ça va être difficile, mais après, tu vas développer ton truc et ça va être moins difficile.
Ouais.
C'est pas que ça va être moins difficile, c'est que tu auras en fait une prise de conscience et une connaissance du contexte qui va te permettre d'adapter de manière itérative. Mm-hmm. C'est les étudiants, chaque année, c'est pas les mêmes, mais d'adapter de manière itérative. Ce qui Absolument. Se passait et ce qui se passe encore malheureusement aujourd'hui, c'est le développement de cours et de se dire, OK, cette évaluation, ça va coller à
Oui.
Plusieurs années sans
Exact.
bouger. Ça y est, le travail, je l'ai fourni.
Ouais.
Ça va pas bouger, c'est comme ça. Et je pense que c'est en ça où il y a des réflexions et ces réflexions d'inclusivité. On arrive déjà comme à la fin, c'est fou. J'ai l'impression d'en être qu'au début. Mais tu sais, on va quand même prendre ce temps-là pour faire rapidement les liens, parce qu'on parlait de pédagogie inclusive dans son entièreté.
Absolument. Je
On
peux
a
faire
ajouté.
un transversal résumé, puis la suite, qu'est-ce qu'on attend, puis qu'est-ce qu'on aimerait voir.
Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça la question que
Oui,
j'aime bien avoir. Tu sais, c'est le
parfait.
côté de, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va s'en venir? Et comment on pourrait justement développer d'autres pistes de solutions? Ouais.
Ben, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut enlever le jugement du fait qu'on est en retard ou pas aujourd'hui. Donc, c'est normal qu'on soit rendu où on est rendu. Maintenant, ce qui n'est pas normal, c'est qu'on reste là et qu'on ne cherche pas à prendre acte de tous ces éléments-là qui se mettent en place depuis 30, 40, 50 ans. Donc, ces choses-là, elles sont présentes avec nous depuis longtemps. C'est juste qu'on pouvait en faire l'économie jusqu'à maintenant. Et encore une fois, du fait qu'on regarde moins le côté institutionnel ou en tout cas qu'on sépare l'organisationnel du pédagogique, ben, ça a eu un impact non neutre. L'impact non neutre que ça a eu, c'est chaque individu est responsable de l'entièreté du système à chaque moment. Donc, si moi, en tant qu'étudiant ou en tant que gestionnaire, j'oublie ou je fais pas quelque chose, ben, je suis la seule personne responsable. Si j'ai besoin de services, je suis responsable d'aller demander ces services-là. Quand on amène ça au prof, ben, le prof est responsable de développer son matériel inclusif et accessible. Ce qui peut pas être fait quand tu développes ton matériel parce que tu as reçu ta charge de cours au mois d'août puis que tu commences en début septembre. Le gestionnaire est responsable de l'entièreté de la pédagogie. À un moment donné, on ne peut pas y aller comme ça et il faut revenir sur l'impact de nos processus administratifs. Est-ce que je suis en train de mettre une barrière ou est-ce que je suis en train de créer un chemin? Et c'est ça qui est important parce que quand on met une barrière, on est en train de créer un chemin aussi. Si je dis tu ne peux pas faire ça, ben, les gens vont chercher à placé. Mais si on dit, généralement, on s'attend à ces performances-là et à ces comportements-là, c'est ceux qu'on valorise. Le besoin d'intervenir de manière autoritaire va être réduite parce que le système va orienter les personnes et donc on va rendre marginale la mauvaise réaction. Le but de l'éducation puis des institutions, c'est d'orienter ces chemins-là pour dire voici la balise, voici le carré de sable dans lequel on peut y aller et ben, d'utiliser les technologies pour faciliter ces éléments-là. Donc, on parlait tantôt de surveiller les performances des étudiants. C'est super bien si on revoit le mode d'évaluation puis la perspective de jugement hiérarchique du bon élève et du mauvais élève. Parce qu'un mauvais élève, c'est un bon élève en devenir, c'est juste qu'il n'a pas encore trouvé la bonne stratégie. Et donc, quand on observe quelque chose, plutôt que d'y trouver une solution tout de suite, d'observer dans quel écosystème, quels sont les éléments d'impact, puis de se dire, bon, ben, ici, on a besoin d'observer telle chose, ici, on a besoin de, justement, quand c'est des connaissances, ben, d'avoir des examens théoriques. Avec, mettons, une banque de 100 questions, mais quand tu arrives dans Moodle ou dans Omnivox, ben, tu en as 10. Fait que là, l'étudiant, de manière itérative, pour se préparer à un examen pratique, pourrait être invité à aller faire l'examen théorique autant de fois qu'il veut et avec chaque fois des questions différentes parce qu'il y a une base de 100 questions, puis on en pose 10. Donc, de trouver des éléments comme ça pour se dire, mes étudiants répondent à quoi? De quelle manière je peux les amener à faire des choses qui sont difficiles parce qu'elles vont voir le résultat que ça va leur apporter? Puis pour moi, c'est là-dessus que je vais finir justement, c'est de renverser donc la perspective hiérarchique top-down. Pour moi, la direction générale, les directions adjointes, les gestionnaires, les employés de soutien et les étudiants, c'est une structure inversée, c'est un pont. Et
Oui,
donc,
c'est sûr.
de soutenir avec du numérique, de soutenir avec de la technologie, plutôt que de chercher à surproduire encore.
Merci de m'avoir éclairé les auditeurs sur le terme de la réussite, sur la pédagogie inclusive et comment le numérique aussi peut aider. On va continuer, tu sais quoi? Je pense que je vais encore t'inviter, peut-être une. Pas peut-être, c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le thème de l'inclusivité. Puis c'est comme si on avait ouvert le débat et qu'il y avait encore. J'ai plein de questions, je ne sais pas pour toi, mais j'ai encore plein de questions en tête. En tout cas, je souhaite te remercier vraiment infiniment d'avoir partagé en fait avec moi cette conversation. Alors à très bientôt et plein
Merci
de bonnes
beaucoup,
choses.
Florence. Ça a été très apprécié. Merci beaucoup de ton ouverture et de ton écoute. C'est vraiment, ça fait du bien d'entendre ça aussi, puis ça porte à bien interagir. Fait que j'espère que les personnes qui nous ont écoutés, ont apprécié et ont des nouvelles questions, qui ont
Oui,
émergé à travers,
tu
ces
partageras tes
réflexions-là.
ressources, hein, tu partageras tes
Oui.
ressources qu'on partagera sur la plateforme déductive et peut-être toutes les informations aussi par rapport à ce que tu fais, tes projets qu'on partagera sur notre plateforme. Merci encore et puis à très bientôt.
Merci, à bientôt.
À bientôt, merci.